Vous avez chanté, vous avez loué, vous avez prié, vous avez pris la Sainte Cène. Et nous avons demandé à Dieu qu'il nous parle. Oui ? Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut nous parler ? Ça dépend de nous. La façon dont on va ouvrir son cœur. Le problème, ce n'est pas que Dieu parle. Le problème, c'est est-ce que mon cœur est ouvert ? On va ce matin aborder un sujet moi, que Dieu m'a imposé. Vous savez, quand on prêche, il y a des sujets qui nous viennent à l'esprit. On sent que c'est la pensée de Dieu, mais ils nous viennent à l'esprit petit à petit. Et il y a des sujets qui nous sont comme imposés. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de les prêcher. Vous avez compris ma pensée. Il faut prêcher là-dessus. Et je peux vous dire que cette semaine, j'ai suffisamment compris que parmi nous, il y a des bifurcations chez certains. Et cette prédication peut aider plusieurs à passer cette bifurcation, à savoir ce que vous avez à faire. Dans le livre de la Genèse, il y a notre ami Jacob, on peut l'appeler notre ami, qui fait plusieurs expériences. Il en fait une lorsqu'il est jeune. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, il fait une expérience. C'est juste une expérience. Plus loin, on va la lire aussi, il va en faire une autre. Qui va déterminer cette communion avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait des expériences que l'on découvre la communion avec Dieu. Genèse chapitre 28, verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est quand même une promesse, ça, non ? Non ? Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Ça n'est pas une, ça ? Écoutez bien, parce que c'est les réactions suite aux promesses qui ne sont pas toujours les bonnes. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Elle est bien cette prière ou elle n'est pas bien ? Attention avant de répondre. D'après vous, vous aurez la réponse à la fin. Un peu plus loin, 20 ans à peu près, je pense qu'il y a 20 ans, oui au moins, puisqu'il est allé chez son oncle. Oui, au moins 7 ans, au moins 20 ans. 20 ans ont passé. Si vous avez compris, vous savez que ça fait 20 ans. 20 ans a passé, et je peux vous dire qu'il a changé, Jacob. Il a beaucoup changé, avec les promesses que Dieu lui a faites, mais pas dans le bon sens. Il a beaucoup changé, oui. Et c'est venu le temps pour Dieu que les expériences qu'il a pu faire de par lui-même ou par la grâce de Dieu se transforment en une véritable communion avec Dieu. Vous savez, le titre, j'avais plusieurs possibilités à cette prédication de titre. Par exemple, de Péniel, de Bethel à Péniel. Mais j'ai pensé que le meilleur titre, ça serait, vous comprendrez, parce que c'est pour nous qu'on va voir ces choses, un Dieu personnel. Et c'est la question que nous devons nous poser, Dieu, Jérôme l'a surligné dans les cantiques, mais Dieu est-il vraiment mon Dieu, personnellement? Ou est-ce que c'est le Dieu des autres qui soit à côté de moi, ou le Dieu du pasteur, ou le Dieu des assemblées de Dieu, ou le Dieu des baptistes? Est-ce que le Seigneur est vraiment mon Dieu? Les Hébreux, lorsqu'ils célébraient leur culte, ils répétaient en boucle les cantiques, comme nous on le fait. Ils célébraient que Dieu est le Dieu d'Israël, que Dieu est le rocher d'Israël, que Dieu est le berger d'Israël, etc. Quand David est entré sur scène, il ne disait pas « Dieu est le berger d'Israël », il disait « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse ». Il faut bien comprendre qu'il y a le credo, il y a la tradition qui peut, qu'on peut sans se louper, dire « Oui, le Seigneur est le bon berger, c'est clair, je le sais, c'est écrit, de toute façon, c'est sûr ». Mais c'est une autre chose de dire vraiment, de vivre « Il est mon berger ». Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions ce matin. Et Dieu permet du temps. 20 ans ont passé entre Bethel et Péniel. Alors on va lire l'histoire à Péniel. 20 ans. 20 ans où malgré les promesses, et c'est ça ce qui se passe, c'est que parfois Dieu nous fait des promesses, quand même les promesses qu'on a lues, vous ne trouvez pas que c'était bien? Non mais franchement, c'est sérieusement. 20 ans. 20 ans. En plus, il va faire une magouille, parce qu'il apprend que son frère, je vous résume, il apprend que son frère, au bout de 20 ans, est encore enragé contre lui. Et il vient à sa rencontre avec 400 hommes pour lui faire la peau. Et il va manigancer, il a l'habitude de magouiller. Il va manigancer un plan, mais là, en plus, il met en jeu ses enfants et ses femmes. C'est vraiment tordu, ouais. Genèse chapitre 32, verset 24. La clé, elle est peut-être dans le verset 24, c'est pour ça que je vous exhorte à prendre en considération ces trois mots qu'on va commencer à lire. Jacob demeura seul. Vous savez, la communion fraternelle, c'est un grand bienfait. Et si vous n'aimez pas la communion fraternelle, vous allez passer à côté de certaines choses. On a besoin de la communion fraternelle. Et Dieu bâtit l'Église, et son Église, on a besoin de l'Église. Mais laissez-moi vous dire qu'autant on a besoin de communion fraternelle, autant on a besoin d'aimer la solitude. C'est l'équilibre. Jacob demeura seul. Dieu a voulu qu'il soit seul. Alors, un homme lutta avec lui. Pas contre, attention, il faut bien faire la différence dans la Bible entre lutter avec Dieu et lutter contre Dieu. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé vainqueur avec Dieu, ou la face de Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Je rappelle l'expression, tu as lutté avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui luttent contre Dieu, en croyant lutter avec. Je le dis maintenant parce que je n'aurai pas le temps tout à l'heure. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Il n'est plus dans le chantage d'il y a 20 ans en arrière. Si tu me donnes de l'argent, je te donnerai la dîme. Il n'avait pas compris. Le soleil se levait. Ça veut dire qu'un nouveau jour commençait dans sa vie. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Nous avons là deux expériences qui nous montrent que Jacob était un fils de la promesse, comme nous. C'était un fils de la promesse qui n'a pas compris le plan de Dieu. Mais il y a des temps avec Dieu. je ne sais pas, vous en êtes, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes à des bifurcations, à des carrefours. Et c'est peut-être ce moment où vous devez apprendre à vous tenir seul. Parce que les épreuves, c'est compliqué les épreuves. Oui ou non? Les épreuves, c'est compliqué. Vous avez vu Job, je suis en train de lire le livre de Job. Comment Job aimait Dieu? Est-ce que Job aimait Dieu? À la fin ou au départ? À la fin, oui, au début? Job aimait Dieu dès le début. Dès le début. D'ailleurs, gardez Genèse, mais venez avec moi dans Job. C'est important de comprendre, parce que beaucoup de chrétiens sont en vrac, excusez-moi l'expression, à cause des épreuves. Alors que les épreuves, elles doivent toutes concourir à notre bien. Beaucoup de chrétiens ont perdu, tout perdu, la foi et les promesses, comme Jacob a failli le faire. Jacob a failli perdre une promesse. Il y en a beaucoup de chrétiens qui passent à côté. Regardez, dans le livre de Job, au début, c'est Dieu lui-même qui parle de Job. C'est pas lui, c'est Dieu. Et j'aimerais certainement que Dieu parle de vous ou de nous comme ça. Vous aimeriez que Dieu parle de vous comme ça? Verset 8, Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, vous y êtes? C'est juste avant les psaumes. As-tu remarqué, c'est Dieu qui parle, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et se détournant du mal. La véritable définition de la crainte, elle est là. C'est quelqu'un qui se détourne du mal. Et c'est pas. En plus, Dieu le redit au chapitre 2, au verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dès le départ, c'est un homme qui exprime combien il aime Dieu. Il aime Dieu. Et pourtant, à la fin, regardez ce qu'il dit. Job 42. Ça vous montre que quelle que soit votre crainte de Dieu, vous pouvez faire des progrès. Vous avez envie de faire des progrès? Regardez, ce qu'il dit, c'est Job, le même, quelques mois après, qui dit ceci, Job 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Pourtant, quand Dieu parle de Job, ça veut dire, vous n'aimeriez pas que Dieu, quand il parle de vous, il dit, mais tu as vu mon serviteur, Michael, tu as vu, il n'y a personne comme lui sur la terre, à part Jonathan. Et vous n'aimeriez pas que Dieu parle de vous comme ça? Sérieusement. Et pourtant, il va traverser une épreuve où il va quand même perdre tous ses enfants. Et je ne sais pas si vous réalisez ce que cet homme a vécu. Et je lisais, parce qu'on lit, c'est très poétique. La façon dont ses amis lui parlent, enfin ses amis entre guillemets, c'est très poétique. Mais en fait, ils lui disent par exemple, mais si tes enfants sont morts, c'est que mon pauvre t'a péché. C'est ça qu'ils disent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lisez-le, vous. Et si vous voulez des preuves, je vous le donnerai tout à l'heure. Et tous ses amis lui ont dit des choses affreuses en cherchant à l'aider. Et l'épreuve, il n'a pas traversé une épreuve parce qu'il était méchant. Il était plein de crainte. C'était un homme impeccable. Il a traversé une épreuve parce qu'il aimait Dieu. Et personne ne peut savoir. La seule chose qu'on peut savoir, c'est quand les épreuves sont dues à cause de notre péché. Et ce matin, en priant, l'introduction est un peu longue, le développement sera un peu plus court, mais je voudrais que vous compreniez certaines choses. Ce n'est pas parce que vous traversez une épreuve que vous êtes dans le péché. Joseph, il a traversé une épreuve parce qu'il était dans le péché ou parce que Dieu fallait qu'il en arrive à être dans la maison de Pharaon? Il n'était pas dans le péché. Au contraire, plus il obéissait, plus il était éprouvé. Et ne vous mettez pas en tête. Par contre, si vous êtes dans le péché, c'est sûr que Dieu peut permettre l'épreuve. Ce matin, en priant, je priais pour cette réunion parce que pour moi, je sais que plusieurs parmi vous, nous, ont besoin de comprendre certaines choses par rapport à la solitude. Qu'il y a des choses qui ne changeront que lorsque Dieu fera que vous vous retrouviez seul devant lui. J'espère que vous aimez ça, vous retrouvez seul. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Je vais prendre deux ou trois exemples. J'ai pris l'exemple de Job pour vous dire que personne ne comprendra l'épreuve. Même la femme de Job, est-ce qu'elle a compris l'épreuve? Est-ce qu'elle a compris son épreuve? Mais non. Je ne sais pas si on est compte. C'est peut-être pire pour elle. Parce qu'elle a perdu ses enfants, mais elle a failli perdre son mari. Et la santé de son mari, franchement, quand vous lisez Job, vous savez qu'il pensait qu'il allait mourir. Et cette femme, elle était désespérée. Et Dieu ne lui fait aucun reproche. Pourtant, elle a dit des paroles aussi difficiles. Quand on souffre, on dit des paroles difficiles. Et d'ailleurs, il le dira, mais si je parle, c'est à cause de ma souffrance. Si je parle comme ça, c'est à cause de mes angoisses. On a le droit d'exprimer quand même ses angoisses. Mais il y a des épreuves dans la vie. Et il faut savoir les accepter. Vous savez, ce matin, je ne sais pas, je priais. J'avais fini ma prédication, j'étais en train de louer, de prier. Et j'ai pensé tout d'un coup à Salomon. Et je pense qu'il fallait que quelqu'un entende ce qu'il va entendre. Salomon, vous connaissez l'histoire de Salomon, il tenait les armées des nations étrangères à distance, uniquement par sa réputation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est fort quand même. Uniquement par réputation, il faisait trembler le monde. Ce n'était pas par la puissance de son armée, il l'avait, mais rien que par réputation. Et regardez avec moi. Écoutez bien, il faut comprendre ces choses. Si vous voulez faire une expérience qui vous permettra que votre Dieu ne soit pas le Dieu des assemblées de Dieu, mais votre Dieu. Regardez dans le premier livre des rois. J'ai été vraiment poussé. Je pense que quelqu'un a vraiment besoin de lire ce qu'il va lire avec moi. Salomon, je le répète, faisait trembler le monde par sa réputation. Vous avez vu la reine Séba, ce qu'elle a dit, par sa réputation. Et regardez, il a commencé à flirter avec les étrangères, avec les femmes étrangères. La sagesse que Dieu lui a donnée, il a commencé à l'utiliser pour construire des temples aux idoles. Ça va mal, hein? Au chapitre 11, vous le lirez, et regardez bien cet homme qui faisait trembler le monde. Au verset 14, regardez. Enfin, si Dieu m'a mis ce verset à cœur, c'est parce que c'est important. L'Éternel, c'est pas le diable. L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il suscita un ennemi à Salomon. Tiens donc. Verset 23. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il suscita un autre ennemi à Salomon. Regardez comment ça va loin. Verset 26. Non mais il faut le lire vraiment, il faut le comprendre. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Un homme qui tient le monde à distance par sa réputation, parce qu'il va commencer à aimer le monde, Dieu va susciter des ennemis. Et un autre. Et même dans sa maison. Dans ma maison, Dieu peut susciter une épreuve. Dans ma maison. Dieu peut utiliser quelqu'un dans ma maison pour me mettre à l'épreuve. Eh bien oui. Eh oui. Cette affaire, elle est sérieuse. Vous savez, quand on comprend la parole, tout ça, vous le savez, ça a été écrit pour notre instruction. Jacob, quand on voit cet homme, vous voyez, après que Dieu lui a parlé à Bethel, mais c'est un truc de fou, comment Dieu lui a parlé. Vous n'aimeriez pas que Dieu vous parle comme ça dans la nuit? Et pendant 20 ans, il a magouillé. Il a magouillé. Il portait bien son nom. Et Dieu, en plus, nous le présente comme trompeur dès le sein de sa mère, que dans le ventre de sa mère, il a attrapé son frère par le talon. Il te dit, mais pourquoi Dieu veut que l'on comprenne ça? C'était pas obligé que ça soit écrit. C'est écrit. Par contre, quand on regarde comment il va apprendre là, à Péniel, laissez-moi vous dire que ça vaut la peine que le Seigneur nous touche. Peut-être pas par une promesse, mais par une épreuve. Est-ce que ça valait la peine là que Dieu le touche? Oui, ça va peine. Vous avez vu comment Dieu va lui dire, écoute, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras plus le rusé, tu t'appelleras Israël. Vous n'aimeriez pas que Dieu vous touche et que vous dites, voilà le nom que tu vas porter maintenant. Quel est le nom que Dieu vous a donné au fait? Si Dieu vous devait vous donner un nom aujourd'hui, quel est le nom? Peut-être que vous ne le savez pas. Mais vous savez, il y a des noms, c'est grave parce qu'il y a des gens qui s'appelaient égoïstes avant leur conversion, 20 ans ou 30 ans ont passé et ils porteraient toujours le même nom. Et il y a un moment, il faut que ça change. Et là, c'est un homme qui a vraiment magouillé. Et cette nature, alors le problème, est-ce que c'est sa nature? Parce que, écoutez bien, parce que les psychologues aujourd'hui font un mauvais boulot, pas tous. Mais on est là dans le caractère, dans le passé. Le problème, il n'est pas dans le passé. Le problème, il est dans le cœur. Est-ce que vous m'écoutez? Je lisais
Je vois M. Olé qui sourit. Je lisais justement une prédication vendredi de M. Olé, une vieille prédication sur un de ses serviteurs de Dieu. Et je pensais à ça. Et justement, c'est ce qui était écrit. Que le problème, il n'est pas dans le passé. Le problème, il est dans le cœur. C'est trop facile de dire, oui, mais Jacob, vous savez, son papa, il n'était pas commode. Son papa, tu sais qui c'est son papa? C'est Isaac. Est-ce que c'était quelqu'un de bien? Ouais. Et son pépé, c'était quelqu'un de bien, le pépé? Qui c'était le pépé? Abraham, c'était quelqu'un de bien? Ah ouais, pépé, il était bien. Mémé aussi. Tonton et Tati aussi. Alors, mes frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur, vous ne sortirez pas de l'épreuve si vous cherchez dans le passé quelqu'un, un responsable. Et mon père, et c'est ma mère, elle ne m'a pas aimé, je n'ai pas eu d'affection. Écoutez-moi, je ne sais pas le passé que vous avez, je ne sais pas le futur que vous aurez, mais écoutez-moi bien. Le problème, il n'est pas dans la nature, il n'est pas dans le caractère. Le véritable problème, il est-ce que j'ai ou non une communion avec le Seigneur? Est-ce que j'ai véritablement une communion avec le Seigneur? Jacob l'a prié, vous l'avez vu avec moi. Il l'a prié après des promesses de fou. Il va le prier, mais c'est des prières qui... Mais on le voit ça. Combien de fois moi j'ai vu ici? Mais tout le long de mon ministère, tout le long. Ça m'a fait mal au cœur au début. Des gens qui ont dit, si Dieu me guérit, ou si Dieu guérit ma fille, je me consacrerai à lui, je me ferai baptiser, je le servirai. Écoutez-moi, ça fait 32 ans que je suis pasteur, je n'ai jamais vu quelqu'un tenir ça. Quand on aime Dieu, on l'aime parce qu'il est Dieu. Point. On l'aime parce que c'est le Seigneur. Il guérit ma fille, merci Seigneur. Il ne la guérit pas, mais Seigneur merci quand même. Il est souverain. D'ailleurs, Job, lisez les propos de Job, il va dire, écoute-moi, de toute façon, si Dieu m'éprouve, il m'éprouve, eh bien, je ressortirai pur. Il veut faire des progrès. Et le problème, c'est que les gens, et le diable, parce que le diable, c'est un accusateur, et il fera tout pour qu'on essaye de trouver la solution chez les autres. La solution, elle est entre vous et Dieu. Jacob a prié, il a prié, ça servait à rien. Et il faut qu'il le rencontre seul. Et c'est ce qui va se passer. Il va le rencontrer seul. 20 ans après, il a lutté pendant 40 ans. Dans le ventre de sa mère, il a commencé. Déjà... Et le problème, on voit bien, ce n'est pas la nature, ce n'est pas le caractère, c'est qu'il va falloir qu'il ait une communion avec Dieu. Il ne sait pas un petit peu qui se laisse faire. Mais lisez vraiment. Moi, je n'aurais pas aimé faire des affaires avec lui, je vous le dis. Il sait ce qu'il doit faire, mais Dieu sait, lui, ce qu'il va faire dans sa vie. Personne ne savait. Il va lui déboîter la hanche. Je ne sais pas ce que Dieu va faire dans votre vie. Est-ce que vous acceptez que Dieu touche à votre vie? Est-ce que vous acceptez? Vous acceptez? De toute façon, je vais vous dire, même si vous n'acceptez pas, il le fera quand même. Je ne sais pas ce que Dieu doit faire, mais il le fait, il le fera. C'est sûr que nous, on aimerait éviter certains problèmes, certaines épreuves. C'est sûr qu'on ne comprend pas, mais mon frère et ma sœur, il faut apprendre à lutter avec Dieu. Lui, il a lutté avec son frère. Vous avez vu comment? Alors que Dieu, en plus, lui avait fait des promesses. Mais il a voulu à tout prix l'avoir par lui-même. Vous vous rappelez quand Dieu a fait des promesses à Jacob? Et pourtant, vous avez vu comment il a magouillé avec sa mère? Mais lisez. Comment il a magouillé avec sa mère pour se faire prépasser, pour Ésaü, pour avoir la bénédiction, alors que Dieu voulait la lui donner. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, la bénédiction à la croix, elle y est. Dieu veut vous la donner, la bénédiction. Ne jouez pas des coudes pour être béni. Ça sert à rien. Il a lutté avec son frère, il a gagné. Il a lutté avec sa mère contre son père, il a gagné. Il a lutté avec son oncle pendant des années pour ses troupeaux. Vous avez vu comment il a magouillé? C'est un truc de fou. C'est vraiment un calculateur. Quand il apprend que son frère veut le tuer, il va magouiller. Moi, je dis que quand on magouille, c'est pas bien, mais quand on met en péril la santé de sa femme et ses enfants, moi, je trouve que c'est vraiment tordu. Il a trompé son nom, etc. Mais béni soit le jour où on se retrouve seul avec le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous donne envie de vous retrouver seul avec le Seigneur. Et Dieu lui dit, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit, même s'il y a quelques éléments, il faut lire dans le prophète Osée. Il y a une clé. Vous savez, il y a des choses qui sont dites. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites. On n'en a pas besoin. Mais ce qui est dit, on en a besoin. Dans le prophète Osée, il nous est décrit ce qui s'est passé cette nuit-là.
C'est important, mes frères et sœurs, de lire l'Ancien Testament. Il y a des gens qui me disent, moi, l'Ancien Testament, j'y comprends rien. Mais lisez, 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 vous verrez qu'à la 200e fois, vous commencerez à comprendre. Un peu avant, quand même. Osée, chapitre 12. Regardez bien ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé dans le cœur de Jacob, malgré le fait que ce soit un homme tordu, ça peut se passer dans le vôtre. Je ne sais pas si vous êtes tordu, compliqué, si vous êtes... J'en sais rien. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais Dieu sait ce qu'il faut. Regardez ce qui s'est passé cette nuit-là. Osée, chapitre 12, verset 4. Dans le sein maternel... Vous voyez, Dieu aime le rappeler. Pour qu'on comprenne que ça partait de loin. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Dans sa vigueur, donc, 40 ans après, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Tiens, qu'est-ce qu'il est dit ? Il pleura. Il lui adressa des prédications, des supplications. Pardon, je pense à autre chose en même temps. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Oui, il l'avait trouvé à Bethel. Mais la communion, il ne l'a pas trouvé à Bethel. Est-ce que vous comprenez ? On peut rencontrer Dieu, mais ne pas avoir de communion avec lui. Et il y a eu cet instant dans la vie d'Osée, non, où Osée nous dit, il a pleuré. Ah, les pleurs. Ça vous arrive de pleurer? On n'ose pas des fois parler des pleurs, tout ça. Est-ce que c'est bien de parler des pleurs? Les pleurs. Sur quoi il a pleuré? C'est ça, c'est pas écrit. Par contre, c'est pas écrit. Sur quoi il a pleuré? Moi, je pense qu'il a pleuré sur son caractère. Parce que c'était quelqu'un de compliqué. Il avait peur de mourir. Il a pleuré peut-être sur ses erreurs de jeunesse, parce qu'il en a fait des erreurs. Les 20 ans chez son oncle, c'est à cause de sa magouille avec sa mère. Il pleure sur sa misère. Ça vous est déjà arrivé de pleurer sur votre misère? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire, je suis pas bien. Ça vous est déjà arrivé de pleurer? Moi, oui. Il pleure sur son éloignement de Dieu, certainement. Ça, je pense qu'il doit pleurer. Parce qu'il ne comprend pas, Dieu lui a fait des promesses et tout va à l'envers. Mais c'est avouez que c'est quand même compliqué. Il y a dans la Bible, il y en a des promesses. Et vous pouvez dire, mais moi, Dieu m'a fait des promesses et ça marche à l'envers. Oui, parce qu'il faut apprendre certaines choses. Ouais. Il faut apprendre certaines choses. Pleurer, Jésus a dit, heureux ceux qui pleurent. Tiens, donc il y a des pleurs qui sont bien. Il y a des pleurs qui ne servent à rien. Quand les femmes pleuraient sur le chemin de Golgotha, Jésus, alors que Jésus était en train de souffrir, il s'arrête et il dit à ses femmes, ne pleurez pas sur moi. Vous rendez compte, Jésus prend le temps de dire, alors que c'était quand même, franchement, est-ce que c'était bien que ces femmes pleurent? Ben oui, mais je dis, ça ne sert à rien. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Quand Josué pleure, il n'a pas à chercher Dieu. Et il envoie ses troupes à Haï, et paf, la défaite. Il y avait un truc qui s'était passé à Jéricho, ça n'a pas été réglé, et paf, 36 hommes sont morts. Et Josué, il est en bras, il pleure toute la journée. Et à la fin de la journée, Dieu lui dit, mais pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, lève-toi, et règle le problème. C'était pas n'importe qui, hein. C'était le grand général Josué. Dieu lui dit, m'arrête. Et Dieu lui dit ce matin, et Dieu peut vous dire ce matin, mais arrête de pleurer. Lève-toi. Moi, je pense qu'il y a un temps pour pleurer. Je pense qu'il y a un moment, ça fait du bien de pleurer. Oui ou non? Moi, je pleure facilement. Mais ça me fait du bien. Moi, ça m'est égal de pleurer. Ça m'intime égal. Mais le problème, c'est pourquoi je pleure. Et quand Dieu dit, mais arrête de pleurer, pourtant c'est Josué, toute la journée. Et pourtant Josué, lui qui a été réglo toute sa vie, là il a 80 ans, et il pleure. Et Dieu dit, mais arrête, lève-toi, et mets les choses en ordre. Et il va le faire, bien sûr, parce que c'est un homme intelligent. Et Dieu va le bénir de nouveau. Mais ce n'est pas la peine de rester couché à pleurer. Si le Seigneur te dit ce matin, mais arrête de pleurer, lève-toi et règle les problèmes, eh bien faites-le. Et le Seigneur va vous mettre des choses à cœur. Faites-le. Et là, c'est ce qui va se passer. Bon, il a pleuré, il a dû dire, mais j'ai gâché ma vie. Il avait 40 ans. Hein. Il avait été, je peux vous dire qu'il avait été béni, matériellement, il avait été béni. Quand on voit les troupeaux qu'il a assemblés, c'est un truc de fou. Lui, la magouille, il connaissait. Les actualités, aujourd'hui, il les comprendrait bien. Il a magouillé, mais je peux vous dire, c'est pas pour ça qu'il a été béni.
Ce n'est pas parce qu'on a été matériellement engraissé qu'on est heureux. Il lui fallait quelque chose de plus. Tant mieux si Dieu vous a béni matériellement. Je ne sais pas si Dieu vous a béni matériellement. Si vous avez ce qu'il faut. Si vous êtes béni matériellement, jouissez-en. Mais rien ne remplacera la communion avec Dieu. Rien ne remplacera la joie d'avoir un Dieu personnel. Il ne faut pas s'apitoyer. Il n'est pas dit heureux ceux qui s'apitoient. Et il y a des chrétiens, franchement je le sais, ça fait peine parce qu'ils perdent des années, comme Jacob. Mais heureusement que Dieu sait le carrefour où il va nous déboîter l'ange. Je vous ai déjà parlé de ce jour, je me rappelle, c'est en 95, en octobre 95, où j'avais demandé à Dieu qu'il me brise. Je n'avais pas calculé que ça allait marcher, quoi. Et j'ai pleuré, moi aussi. Mais je peux vous dire que je ne serais pas là si je n'avais pas vécu cette expérience. Il pleura. Mais il n'a pas fait que pleurer. Il a écrit quelque chose qu'on n'a peut-être pas bien compris. Il lui a adressé des supplications. Vous l'avez lu avec moi ? Tiens donc, et cette semaine, en priant par rapport à cette prédication, j'ai regardé vraiment le mot « supplication ». Qu'est-ce que ça veut dire, « supplication » ? Regardez dans un dictionnaire. C'est écrit exactement « prière faite avec instance ». Écoutez bien la suite. « Et soumission ». Des fois, on dit « Seigneur, je te supplie ». Tu vois les gens au Népal qui souffrent suite à ce séisme. « Seigneur, je te supplie ». C'est pas ça. Bien sûr qu'on a, on a à cœur. Mais on pourrait dire, Seigneur, je fais une requête, je fais des requêtes pour le Népal. Vous voyez, des requêtes, c'est continuel, je te prie sans cesse pour le Népal. Ça s'appelle une requête. Mais une supplication, d'ailleurs, on l'a vu, des gens qui ont dit, je t'en supplie, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. On l'a pas entendu, ça ? Bon, c'est pas pour ça que c'est vrai. Mais une supplication, c'est ça. C'est-à-dire que Jacob, il est arrivé à un moment de sa vie où il va le faire. Seigneur, ce que tu veux, je veux le... Et d'ailleurs, il va le faire. Et après, ça va devenir une... C'est extraordinaire comment Dieu est capable de changer quelqu'un. À tel point que Dieu, quand il parle, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Il aurait pu dire d'Israël. Le Jacob, on va l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Et je suis le Dieu de Jacob. Ça veut dire le Dieu qui est capable de donner de nouvelles, c'est pas le mot, j'aime pas, mais enfin, de nouvelles, j'allais dire chances, de nouvelles opportunités. Vous croyez que Dieu est capable de tout changer? Eh bien oui, vous l'avez là. Mais le Seigneur, on ne sait pas les épreuves. Moi, je vais réétudier le livre de Job parce que je sais que Dieu veut me parler au travers de ce livre. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons adresser à Dieu des véritables supplications? Dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je reconnaisse certaines choses plutôt que d'accuser. C'est vrai que quand on voit l'histoire de Jacob, on voit que son père... Qui c'est qui préférait son père? Vous connaissez l'histoire? Qui c'est qui préférait... Il préférait Ésaü. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était chasseur. Et sa mère, elle préférait Jacob. Pourquoi? Ben parce qu'il était cuisinier. Alors est-ce qu'on a le droit de faire des préférences? Attention. Est-ce qu'on peut préférer un enfant à un autre? Alors, on va aller plus loin. Je reformule ma question. Est-ce qu'on peut avoir des affinités avec un enfant plus qu'un autre? Bon. Jean était le disciple que Jésus aimait. Il y avait une affinité entre Jésus et Jean qu'il n'y avait pas entre le Seigneur et Judas. Mais c'est un choix. C'est un choix, l'affinité. Et c'est ce que Dieu veut, même si ça prend 20 ans. Parce qu'il a dû fuir. Parce que le problème, c'est que quand on fait des boulettes, à force, on fuit. Mais on a intérêt à revenir au point de départ. Et c'est quand il est revenu chez son frère, parce qu'il fallait qu'il revienne, il faut être à sa place. Le problème, il n'est jamais dans la fuite. Le problème, il n'est pas dans la fuite de partir ou de rester. Parce que vous pouvez rester, ça ne réglera rien. Vous pouvez partir, ça ne réglera rien. Le problème, il est spirituel. Moi, j'ai vu des gens, si c'est ça, on divorce. Ils ont divorcé. Le deuxième mariage, ça a été pire que le premier. Et ils ont redivorcé parce que, bien sûr, c'était la faute à la femme. Bien sûr, c'est toujours la faute à la femme. Et le troisième mariage a été pire que le second. Donc, pire que le premier. Jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est un problème de caractère. C'est trop facile d'accuser les autres. C'est trop facile. Et ça, Dieu ne le bénit pas. S'il y a une chose que Dieu ne bénit pas, de tout le temps dire, c'est la faute à l'autre. Ça ne va pas, c'est la faute à l'église. Ça ne va pas, c'est la faute à mes enfants. Écoutez-moi, retrouvez-vous seul devant Dieu. Pleurez s'il le faut. Et dites, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Il a lutté avec Dieu. Ne prenez pas le risque, dira Gamaliel, de lutter contre Dieu. Et quand est-ce qu'on lutte contre Dieu? Eh bien, voilà, vous critiquez les autres, vous accusez les autres, eh bien, vous ne luttez pas avec Dieu. Vous luttez contre Dieu. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi des chrétiens sont dans le vrac depuis des mois, des années. Des chrétiens sont dans la même situation depuis des années. Jacob, il avait 40 ans. Eh bien, c'est vrai qu'il y a le temps de Dieu. Moi, je crois qu'il y a des choses, il faut 5 ans pour les apprendre, il faut 10 ans pour les apprendre. On ne peut pas tout apprendre en quelques mois, ce n'est pas possible. Mais mes frères et sœurs, savoir reconnaître qu'on s'est trompé. Je me suis trompé. Est-ce que mon frère, ma sœur, devant le Seigneur, peut-être au début, peut-être pas devant quelqu'un, c'est pas facile au début. Mais de dire, je me suis trompé, Seigneur. Je me suis trompé. C'est ce qu'il a fait, Jacob. Cette lutte avec Dieu. D'ailleurs, il n'a été vainqueur. Retenez bien cette chose. Jacob n'a été vainqueur quand il ne pouvait plus combattre. On n'est pas vainqueur tant qu'on continue à se débattre et à combattre le mauvais combat de la foi. Il a été vainqueur quand Dieu... Est-ce que Dieu aurait pu le détruire? Parce qu'il y a des millages, bon, c'est pas facile. Est-ce que Dieu aurait pu appuyer sur la carotide à la place? Est-ce que Dieu aurait pu le tuer? Est-ce que vous savez que Dieu aurait pu nous détruire chaque fois qu'on s'est loupé? Oui ou non? Mais il ne l'a pas fait, heureusement. Notre Dieu, il sait où appuyer. Notre Dieu, il ne veut pas nous détruire. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Il est venu parce qu'il a un plan. Et Jacob, il ne pouvait pas continuer comme ça, à magouiller avec tout le monde. Il fallait qu'il se retrouve seul. Et je vous souhaite d'avoir envie de vous retrouver tout seul devant Dieu. Il y a des gens cet après-midi qui vont se retrouver 3 heures devant la télé pour regarder la finale de Roland-Garros. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais moi, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de mal. Est-ce qu'on peut regarder un match de foot de tennis? Oui. Mais quand même, je dis ça pour que vous compreniez bien que quand on a envie de se faire plaisir, on est capable de... Il y a des choses, je pense qu'il y a des choses saines qu'on peut regarder. On est capable de passer 3 heures à regarder un truc sain. Et ça hyène. Et on ne serait pas capable de passer 2 heures devant le Seigneur. Mais c'est peut-être qu'on n'a pas compris où était véritablement le plaisir. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir du plaisir à se tenir devant Dieu? Si vous ne l'avez pas vécu, c'est pour ça qu'il faut que... C'est pour ça que j'ai cherché le titre. Pour une fois, j'ai cherché un titre. Un Dieu personnel. Il faut que je vive quelque chose. Quand vous lisez Genèse 28, vous dites, mais c'est pas possible. Toutes ces promesses, il va capter. Non, il n'a pas capté. Et ce n'est pas parce que Dieu va vous faire des promesses que vous allez capter. Dieu, il va vous demander de vous retrouver seul. Savoir pleurer, savoir s'humilier, savoir vraiment supplier. Et dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça contribue à ta grâce? À lutter avec ou contre? J'aime pas ma femme. J'aime pas ma femme. Qu'est-ce que je fais? Je lutte avec Dieu ou contre Dieu? Ben contre. Il faut que je le sache. Si je méprise, si j'aime pas l'église, je lutte contre Dieu. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et il vaut mieux être avec lui. Si je vole, si je mange, je lutte contre Dieu. Et il faut que j'apprenne à lutter avec Dieu. Seigneur, je veux me tenir à tes pieds. Il faut que tu me montres quel est mon caractère. Si Dieu a montré à cet homme quel était son caractère et qu'il l'a changé par une communion avec Dieu, vous savez quand Dieu a suscité un ennemi dans la vie de Salomon. Je veux dire, ce matin, j'étais poussé à lire cette affaire. Pourtant, personne n'aurait osé, même pas un roi païen, se serait opposé à Salomon. Et vous avez vu, dans la maison, un serviteur. Un serviteur. C'est pas la nation de Perse qui s'est liguée. Non, un serviteur dans la maison. Comme quoi, voyez, il faut faire attention aux choses. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que mes choix sont bons? Est-ce que je demande à Dieu de m'arrêter? Ou est-ce que je continue à magouiller, à utiliser les autres
Parce que c'est ce qu'il a fait, il a utilisé les autres pour arriver à ses fins. Mais Dieu l'a pas détruit. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, de Jacob? Qu'est-ce que vous en auriez fait de Jacob? Allez, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous auriez fait de Jacob, là, en Genèse 32, qu'est-ce que vous auriez fait? Quand il a utilisé sa femme et ses enfants pour calmer son frère. Parce qu'à l'époque, ce qui aurait pu se passer, c'est que son frère aurait pu arriver avec ses 400 hommes et tuer tout le monde. C'est que ça marchait comme ça à l'époque, vous savez, c'était très tendre. Et en pensant que ça apaiserait le frangin. Et que quand il arriverait, après avoir tué une centaine de personnes, il se serait un peu calmé. C'est ça. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a changé le cœur d'Ésaü. Et quand ils se sont vus, ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre. Mais vous croyez vraiment que Dieu peut changer quelqu'un? Est-ce que vous le croyez vraiment? Et Jacob, ça faisait quand même que 20 ans qu'il ruminait sa rage. Parce que vraiment, il avait payé cher. Et cette histoire, elle s'est bien finie. Savoir pleurer, ne pas s'entêter, savoir abdiquer et dire, voilà, je veux reconnaître l'amour de Dieu. Vous n'avez pas envie de reconnaître l'amour du Seigneur davantage? Une victoire. Vous n'avez pas envie d'une victoire? Comment elle est la victoire? Par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, dont je réapprends à pleurer. Oui, s'il le faut, mais pas pleurer. Pas pleurer pour pleurer. J'en ai marre. Non, mais ne riez pas. C'est ceux qui se disent déjà, ils sont, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est comme ça, je plaque tout, j'abandonne tout. C'est pas ça. Lui, attend pas ça. Dis oui, je me suis planté, j'ai péché, je me suis mal comporté, pardon. Du fond du cœur, je te demande pardon. C'est ça le bon combat. Et Dieu y voit quand on demande pardon. Quand Pierre avait dit, moi je te renierai pas, moi je les autres, oui, mais moi c'est pas possible, moi je mourrai avec toi. Et puis dans le jardin de Gethsémané, ça partait bien. Quand le sacrificateur est venu, il a pris son épée, il a coupé l'oreille. Vous rappelez l'histoire? T'as vu? Il a dû se dire, c'est pas vrai. Ouais, Jésus, pour une fois, il s'est trompé. Pas parti pour renier le Seigneur, moi. Et puis quelques heures après, devant une simple femme, c'est pas un garde, devant une simple femme, comme quoi on ne sait pas ce qui peut nous faire tomber. Et c'est ça l'enseignement de cette affaire. On ne sait pas. Mais quand on apprend, s'il osait, dit, mais voilà, il a pleuré. Il a supplié, parce que si vous dites, je t'en supplie, mais si vous recommencez, il n'y a pas de soumission. La supplication, c'est je me soumets. Je me soumets à Dieu, et je veux le faire sérieusement. Et le soleil se lèvera, vous avez vu, le soleil s'est levé. Ça veut dire qu'un nouveau jour s'est levé. Dieu a des plans. Moi, quand je vois cet homme, magouilleur, rusé, trompeur, calculateur, il termine sa vie en prophétisant et en bénissant ses enfants et ses petits-enfants. Vous vous rendez compte? Non, mais au début, tu aurais dit, bon, d'accord, je vois mal Jacob, comment il va finir. Il termine sa vie, il meurt, appuyé sur son bâton. Dieu ne l'a pas guéri. Dieu a voulu qu'il... Est-ce que Dieu aurait pu le guérir après? Bon, je te dis mille ans, maintenant ça fait 3 ans, t'as compris, allez hop, clic, je te guéris. Est-ce que Dieu aurait pu le guérir? Monsieur, il est mort... Avec sa canne, tout le temps, quand on l'entendait, quand il marchait là, dans les rues de Toulouse, enfin, non, je ne pense pas qu'il est venu jusqu'à Toulouse, mais quand il marchait, on entendait la canne, il est mort, mais est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine ou est-ce que Dieu a été trop dur avec lui? Moi, j'aimerais terminer ma vie en bénissant, tiens, ma femme en la bénissant, puisque je partirai avant elle. Il y a une chance sûre, oui, on en parle souvent. Il y a une chance sur deux que je parte avant elle, vous êtes d'accord? Sur 3. On peut partir ensemble, tais-toi. On peut partir ensemble, mais la femme, elle peut partir après. Oui? Mais moi, j'aimerais partir en bénissant ma femme, mes enfants et l'Église. C'est ça que Dieu veut. Je veux bénir mes frères, je veux bénir mes sœurs. Ça plaît à Dieu. Vous ne luttez pas contre Dieu quand le matin vous vous levez et vous dites, Seigneur, je veux bénir mes enfants. Je bénis la ville de Toulouse. Je bénis les autorités de ce pays, même si elles sont dans les ténèbres. Je fais ce que Dieu me demande. Tu me demandes de prier pour les autorités ? Je prie. C'est ça, lutter avec Dieu. Tu me demandes de bénir le pasteur ? Eh bien, vous priez pour les pasteurs ? C'est ça, travailler avec Dieu. Seigneur, l'Église, c'est vrai, on n'est pas parfait, mais c'est ton Église. C'est ton Église. Tu as versé ton sang pour qu'on soit là. Ce matin, on est là que grâce au sang de Jésus. Vous êtes d'accord ? Alors, Seigneur, je veux aimer l'Église. Je veux lutter avec toi. Moi, quand j'entends des gens, ouais, l'Église, j'en ai rien à cirer, je m'en vais. Eh bien, ils se mettent contre Dieu. Alors qu'ils peuvent souffrir et tout. Et on peut comprendre certaines paroles. Parce que lisez le livre des Job et vous comprendrez qu'on peut dire des âneries quand on souffre. Dieu ne le reproche pas. Mais c'est peut-être après qu'on a dit l'ânerie de se retrouver dans sa présence et de dire, Seigneur, pardon. Pardon, pardon. Quand Pierre a renié, un simple regard a suffi. Jésus l'a regardé, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Ce n'était pas des pleurs de, qu'on appelle ça, des larmes de crocodile. C'était des larmes de repentance. La preuve, c'est que quelques jours après, il prêchait à Jérusalem. Mes frères et sœurs, le Seigneur a tout accompli au calvaire pour nous bénir. Et qui que vous soyez, je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes aussi rusé que Jacob, laissez-moi vous dire que votre femme, vos enfants, vos amis, votre pasteur, personne ne saura comment vous attraper, mais Dieu, il sait comment vous attraper. Alors ne vous inquiétez pas pour votre femme, ne vous inquiétez pas pour votre mari s'il est inconverti. Seigneur, tu sais à quel endroit du corps l'attraper. Vous croyez que Dieu sait à quel endroit il faut appuyer ? Seigneur, il le sait et il le fera bien. Tu t'appelleras plus le rusé, le trompeur. Tu t'appelleras vainqueur avec Dieu. Moi, j'ai envie de faire partie. Vous savez, quand Jésus a dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Vous n'avez pas envie de faire partie des vainqueurs ? Je veux faire partie des vainqueurs. Moi, je veux bénir. Je veux bénir mon église. Je veux bénir mes enfants. Je veux bénir mon mari. Je veux bénir mes petits-enfants. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez marcher ? Eh bien, Dieu va le voir. C'est comme ça qu'il faut terminer, en bénissant, parce qu'il y a de quoi maudire si on se fait happer par la patrouille. Vous avez vu comment le monde nous enseigne bien ? Vous avez vu comment les journalistes nous enseignent bien ? À haïr ? Mais Dieu nous enseigne à bénir. Bénissez, a dit l'apôtre Pierre. C'est à cela que vous avez été appelés. Alors on termine en lisant ce verset. Lisez-le avec moi. Bénissez, ne magouillez pas, ne calculez pas la bénédiction. De toute façon, ça ne servira à rien. Même si vous deveniez millionnaire, ça ne servira à rien. Vous me dites, mais ce n'est pas possible. Eh bien oui, moi je vous le dis. Alors, les stagiaires, vous devriez savoir ça. 1 Pierre, chapitre 3. Bénissez. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Apprenez par cœur ce verset. Parce que la conséquence, elle est merveilleuse. Jacob l'a fait après 40 ans de lutte. 40 ans, je ne sais pas quel âge vous avez. C'est peut-être votre âge. Et c'est peut-être aujourd'hui votre nouveau jour qui se lève. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas mal pour mal, parce que du mal, il y en a. Ou injure pour injure. Bénissez, au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelé, ça fait partie de votre appel, de votre vocation. C'est ça l'appel, la vocation. Afin, comment, qu'est-ce que c'est qui va arriver ? Afin d'hériter la bénédiction. Mes frères et sœurs, Jacob, il a compris et il a hérité la bénédiction. Croyez-moi, il avait 40 ans. Il aurait pu le faire bien plus tôt, croyez-moi. À 20 ans, il aurait pu. Mais il a calculé. Ne calculez pas, ça ne sert à rien. Luttez avec Dieu. Et bénissez. Bénissez demain votre patron. Les gens avec qui vous travaillez, ils se moquent de vous parce que vous êtes chrétien. Bénissez-les. Ah non, moi, il m'énerve. Bénissez-les. Mais vous entendez, mes frères et sœurs ? Bénissez vos amis. Bénissez vos ennemis. Bénissez la ville. Bénissez votre pays. Vous êtes ici, peut-être, vous êtes africain. Vous dites, j'en ai marre, on me traite de noir parce que pourtant je fais mes études, je suis chrétien. Bénissez la ville de Toulouse. Moi, je peux vous dire, à Tahiti, souvent, on m'a traité de sale blanc. Et ouais, je disais, Seigneur, bénis-les. Ouais, et si vous saviez comment j'aime ce peuple, si vous saviez comment j'aime le Tahiti, il faut bénir afin d'hériter la bénédiction. Il y a déjà, moi, j'ai entendu une chrétienne, dire, je le maudis.
vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai pu rien dire, tellement ça m'avait fait mal. Je le maudis. Mes frères et sœurs, ça c'est ça, lutter contre Dieu. Mais quand vous dites « je les bénis tous », eh bien vous luttez avec Dieu. Et vous obtiendrez la bénédiction. Et une église, c'est elle bénit Jésus sur la croix, parce que quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'il a subi dans les dernières 24 heures. La première parole de Jésus sur la croix, ça aurait pu être « je demande aux anges de faire du ménage ». Est-ce qu'il aurait pu le faire? Est-ce que Jésus, parce que nous on le sait, est-ce que Jésus sur la croix aurait pu dire « je demande à l'ange Gabriel » ou à l'ange qui s'est occupé des Syriens là? Il y en a un, il est particulièrement costaud je trouve. En une nuit, il a tué 186 000 Syriens. Il aurait pu dire « je demande à l'ange qui s'est occupé de la Syrie de s'occuper de Jérusalem ». En deux minutes, Jésus retrouvait son rôle de Dieu et c'était fini. Et on était tous perdus. Et la première parole qu'il dit, c'est « Père ». Mes frères et sœurs, est-ce que ça nous a bénis? Un peu, oui. Mes frères et sœurs, je ne sais pas le temps qui a passé. Je ne sais pas si vous avez 20 ans, 30 ans, 40, 50. Je ne sais pas si vous êtes à 80 ans et dans cet état encore de lutte. Mais le Seigneur, il ne se lassera pas. Son amour ne se lasse jamais. Alléluia. Il ne se lasse pas de pardonner. Alors on pourrait terminer en lui disant, Seigneur, apprends-moi à demeurer seul. Dieu vous interdira pas de regarder Roland Garros. Non mais je suis sérieux. Dieu ne vous interdira pas de vous détendre. Mais franchement, apprenez à rester seul devant le Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. On se recueille. On le prie sincèrement. Parce qu'il y a deux façons de prier. Ou on prie pour terminer le culte, d'une manière routinière, ou on lui demande de nous aider vraiment. Et s'il y a quelqu'un qui dit, tu vas m'aider Seigneur, on va prier. De toute façon, Dieu regarde au cœur. Seigneur Jésus, nous avons chanté tout à l'heure que tu étais digne. On est certainement loin du compte quand on chante. Tu es vraiment, vraiment digne de recevoir, oui, les actions de grâce des enfants, de tes enfants. La patience que tu as eue avec Jacob, avec Akab, avec Manassé, et la liste infinie d'hommes et de femmes sur la terre qui se sont confiés en toi. Merci pour ta longanimité. Nous nous plaçons sous ton regard, Seigneur, et nous te prions de nous aider à aimer, à nous retrouver seuls, pour que tu puisses nous parler. Cet homme, tu l'as changé, nous l'aurions certainement jugé. Seigneur, ça nous est presque difficile de croire que tu t'appelles le Dieu de Jacob. Mon Dieu, merci pour ton amour. Nous te remercions de nous avoir donné la grâce, la force, le privilège, l'honneur de venir dans ta maison ce matin. Nous voulons aimer l'Église, nous aussi. Nous voulons aimer les frères, ce pays, cette nation, nos familles, nos enfants. Ceux qui nous critiquent, nous voulons les bénir, Seigneur. Non pas ce matin, mais tous les jours. Cette bénédiction que tu veux nous donner, nous voulons la recevoir. Parce que nous voulons terminer la course en bénissant les autres, Seigneur. Vraiment, même si on boite un peu. On veut terminer en bénissant les autres. Même si le corps a parfois chargé, ce n'est pas grave, Seigneur. On veut terminer en bénissant les autres. Merci, merci de te révéler. Apprends-nous, oui, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à prier. Merci du fond du cœur pour ce jour où nous serons avec toi, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, assis à la table. Mon Dieu, quel bonheur. Où nous serons tous avec ses frères et sœurs.
Que ton nom soit béni pour le repas des noces de l'agneau. Garde-nous fidèles et vainqueurs. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.